cette œuvre, qui n'en est pas une au sens traditionnel du terme, comme Paul Thévenin, vous venez de nous le dire, eh bien, cette œuvre, comment la recevoir aujourd'hui? C'est ici que peut reprendre notre discussion et que nous rejoignons l'état de gêne dont vous, Marthe Robert, vous nous parliez au début de notre émission. Un état de gêne éprouvé également par vous tous, Hubert Juin, Jacques Brenner ou Bernard Noël. Au fond, Pierre Auster, je crois que c'est une gêne engendrée par le respect.
Oui, bien, parce que le respect qui entourait Antonin Artaud à cette époque-là, on ne le retrouve pas aujourd'hui dans le respect qui nous anime à son endroit. Les braves gens de l'époque, ma foi, ont été suivis par d'autres braves gens que nous sommes. C'est-à-dire, nous n'avons pas du tout l'intention de suspecter chez Antonin Artaud le moindre élément de comédie. Oui. Nous sommes des adeptes.
Des adeptes. Voilà, justement. Peut-être que les choses ont tout de même un petit peu changé, car cette littérature dont nous parlons, ce monde vraiment très fermé, si fermé qu'à l'époque, je n'ai jamais pensé pour ma part qu'il pourrait avoir une communication quelconque avec une postérité quelconque 25 ans après. C'était tout simplement inconcevable. Ce monde fermé, c'est maintenant de l'histoire. Et Antonin Artaud aussi est de l'histoire, si vous voulez. Mais d'une manière assez particulière. Voyez-vous, quand il est revenu de Rodez, il est vrai que nous l'entourions d'une espèce de respect, de vénération sacrée. C'est vrai, il y avait dans son apparition même quelque chose qui le commandait et qui nous ôtait, il faut bien dire, aussi presque tout sens critique. Je me souviens qu'un jour, quand Antonin Artaud m'a lu pour la première fois Artaud, le moment qu'il venait d'écrire, peut-être à moitié chez moi, à moitié chez d'autres amis, il allait un peu partout dans le quartier, on habitait tous le quartier. Quand il m'a lu Artaud Momo, que voulez-vous dire sur Artaud Momo? Et Antonin Artaud m'a dit, eh bien mon enfant, qu'est-ce que vous en pensez? Et je lui ai dit, Antonin Artaud, rien. C'est comme si j'avais reçu un coup de marteau sur la tête. Je n'en pensais rien, vous comprenez? Il n'était pas question d'avoir un jugement critique au sens ordinaire du mot, même pour des gens assez portés à la critique, comme je le suis en général. Mais ce n'était pas comme ça qu'on pouvait recevoir un poème d'Artaud. Or, ça, tout de même, je crois qu'il est bon de dire que nous n'en sommes plus là. Maintenant, toute la vénération qu'on porte à cette extraordinaire figure qui a été à la fois si proche de nous et si lointaine, finalement, parce que on n'approchait pas Antonin Artaud. On ne l'approchait pas. Et d'ailleurs, il ne le souhaitait pas. De temps en temps, Antonin Artaud, avec une malice dont on ne savait pas si elle était méchante ou simplement malicieuse, vous demandait tout d'un coup, ce petit bonhomme qui était cette nuit dans la cheminée et qui se frottait le ventre en me regardant. Eh bien, vous, mon enfant, est-ce que vous l'auriez vu cette nuit? Bon, eh bien, c'était vraiment le comble de la malice. Car il savait très bien, celui qui, à ce moment-là, se serait avisé de répondre, mais certainement, je crois, ou pourquoi pas, il existe sûrement. Enfin, ça aurait été très mal reçu. À ce moment-là, on ne pouvait que lui dire la vérité. Moi, je lui ai dit, je ne crois pas que j'aurais vu le petit bonhomme qui se frottait le ventre dans la cheminée, parce que je ne crois pas avoir les mêmes dispositions que vous. Et je crois qu'en revanche, vous le voyez. Donc maintenant, tout de même, si vous voulez qu'on n'est plus sous le coup de la fascination immédiate
du personnage,
de toute cette...
oui.
Et du personnage et de son œuvre, oui, parce que oui, n'oublions pas qu'il l'a créé à mesure, sous nos yeux, dans une conversation. C'est ça le plus extraordinaire. Peut-être Antonin Artaud ne changeait pas de manière d'être et de manière d'écrire selon les conditions dans lesquelles il était. Il écrivait comme il parlait comme il écrivait, il jouait comme il vivait, et il vivait constamment son théâtre. On ne pouvait rien distinguer là-dedans.
Il avait basculé d'un seul coup dans le poème d'Artaud, c'est-à-dire quand il ne l'écrivait pas, il le parlait, quand il ne le parlait pas, il le mimait. Où il le dansait.
Absolument, il n'y avait jamais de pause. C'était une création continue, sans pause, qu'on ne peut même pas appeler création, parce que ça ne correspond à rien à ce que nous envisageons comme étant le processus créateur,
oui,
n'est-ce
mais
pas?
Mais il travaillait en même temps, puisque l'édition nous donne justement les multiples variantes de textes comme...
Oui, mais attention, il y a des origines de variantes. Je me souviens avoir assisté à une origine de variante qui était par exemple celle-ci. Je crois que c'était Georges Lambrix, enfin, auquel il avait donné un poème, et ce poème était strictement indéchiffrable. Alors nous étions ensemble au Flore pour lui faire déchiffrer son poème. C'est-à-dire nous avions du papier, puis il lisait son poème, mais à un moment donné, parce qu'il a vu passer une femme enceinte, je crois, sur le trottoir ou quelque chose comme ça, il a dévié du poème original et il a dicté
Autre chose. Voilà.
Autre chose. C'est
exactement
ce qui faisait de
poème. Mais si vous regardez de très près les variantes, vous vous apercevrez également qu'il y a un travail proprement littéraire. D'ailleurs, il dit lui-même à Prevel qu'il lui avait fallu réécrire 30 fois.
L'introduction au théâtre de la cruauté.
Au théâtre de la cruauté. 30 fois, c'est pas un maximum.
Mais ça, c'est un beau chiffre. Certain qu'Antonin Artaud travaillait ses textes.
Donc, il avait peut-être une double manière de procéder. Il y avait peut-être une manière extérieure, en quelque sorte, et amicale. C'était une façon de vous faire participer à son génie.
Oui,
génie il y avait, mais il y avait peut-être d'autres périodes un peu plus souterraines où il s'exprimait comme tout écrivain avec du papier.
Jusqu'à... Parce qu'il y a eu quand même cette création d'un langage Artaud, on peut dire, qui ne relevait pas, par exemple, de l'écriture automatique, enfin, ou de l'automatisme. De la même façon qu'il voulait faire naître Artaud, il faisait également naître la poésie d'Artaud, ou le poème d'Artaud, par un travail, parce que son écriture, ce n'est pas la transcription d'une pensée, mais c'était une pensée qui se faisait par le langage lui-même.
Même dans ces mots qu'il inventait, ces glossolalies, il y a un travail proprement littéraire. Il cherchait à définir, à trouver des rythmes.
Bien sûr, mais il n'empêche
de la force sur autrui.
Mais il n'empêche que le travail qu'il accomplissait ne se faisait pas, je crois, si vous voulez, au fond, il travaillait son poème jamais à froid. La fièvre ne l'abandonnait pas. Et il retravaillait son poème dans la fièvre. Et pour vraiment voir ce contact, je crois, avec Artaud, enfin, il y a une scène dans le journal de Prevel qui est très explicite. C'est quand Prevel va le voir à Ivry et que Artaud se livre à son poème dansé, n'est-ce pas, en tapant, en émettant des sons qui ne veulent rien dire. Et Prevel est tellement fasciné que Prevel se met lui aussi à danser une sorte de danse du scalp à la suite d'Artaud, c'est-à-dire à entrer dans le poème d'Artaud. Et ça, c'est quand même ce qui reste maintenant d'incommunicable.
Exactement,
lorsqu'on
oui.
aborde Artaud.
Exactement. Là, je veux dire, ça reste incommunicable aussi quand on lit les poèmes de Jacques Prevel. Pour ma part, cette lecture me plonge dans un assez grand malaise parce qu'il y a donc cette fascination qu'exerçait Artaud. Mais finalement, les familiers d'Artaud ont tous fait leur route, ont trouvé leur voie. Prevel, il a l'air d'avoir été possédé complètement par Artaud. Et finalement, quand il écrit pour lui-même, on croirait entendre la voix très lointaine d'Artaud, mais sans Artaud. Et alors là, justement, il y a une espèce de romantisme tragique de l'échec qui me paraît terrifiant.
Il faut pourtant préciser quelque chose, c'est que Prevel écrivait des poèmes bien avant d'avoir connu Antonin Artaud, et même bien avant de nous avoir connus. Si je me souviens bien, c'est par Adamov que nous l'avons connu, n'est-ce pas ? C'est Adamov qui nous l'a amené. Je ne sais plus exactement dans quelles conditions ils s'étaient rencontrés.
Je pense, pour autant que je m'en souvienne, que Prevel avait été très fasciné par Gilbert Lecomte.
Il ne l'a rencontré qu'une fois.
Et je crois que c'est par ce canal... Il a été amené à rencontrer Adamov.
C'est très possible.
Mais ça ne prouve pas que, ne connaissant pas encore Artaud, il ne l'ait pas lu.
Il ne l'avait pas lu.
Tous les poèmes publiés de Prevel ici sont quand même sous l'influence d'Artaud. Enfin, même déjà les poèmes mortels, il n'a rien eu de plus pressé que de les envoyer à Antonin Artaud et de recueillir.
Les poèmes mortels, il y a une influence, si vous voulez, mais certains sont plus anciens que les poèmes mortels.
Voyez-vous, j'ai une curieuse sensation en vous écoutant tous, qui répond justement peut-être à la forme d'interrogation qu'a dit tout à l'heure Pierre Oster et également Christian Giudicelli. C'est finalement comment recevoir Artaud de nos jours. Il y a évidemment une contradiction fondamentale entre ce qui se passe entre nous, je veux dire cette espèce de fièvre, d'amitié et en même temps de vie qui se manifeste, et il n'y a pas de doute du reste qu'Artaud est là parmi nous, j'en suis absolument persuadé, lui-même aussi sans doute. Je veux dire par là qu'il y a cette partie vivante, sacrée, de la formulation poétique du jeu au sens élevé du terme qui se produisait dans sa création. Et il y a le fait que sur ma table, je vois un certain nombre de livres à couverture blanche et célèbre, NRF, etc., où je feuillette comme je pourrais feuilleter un de ses nombreux romans qu'il n'a jamais lu. Je veux dire qu'il y a cette contradiction. Non, mais que je peux feuilleter, que je peux ouvrir. C'est ça que je veux dire. Je peux ouvrir et regarder des textes noirs sur blanc. Il y a cette contradiction fondamentale et qu'il faudrait tout de même peut-être davantage expliciter pour ceux qui nous écoutent. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Je comprends très bien.
On va maintenant introduire une confusion parce que vous dites, bon, j'ai 14 volumes sur ma table, ça s'appelle « Œuvre complète d'Antonin Artaud ». Mais en les lisant, on voit que il n'y a pas d'œuvre à proprement parler chez Artaud. Et depuis le début, même l'Ombilique des Limpes, même le Pesner, il n'y a pas de clôture du livre chez Artaud. Les œuvres complètes, il n'y a pas d'autre mot, bien entendu, puisqu'effectivement, c'est tout ce qu'il a écrit. Mais le mot « œuvre » me semble ne pas être une définition satisfaisante de cet ensemble de textes qui s'organisent avec la littérature, mais également avec l'intime du personnage. Je crois qu'Artaud, on ne peut pas scinder les choses.
Mais je ne vous demande pas de les scinder. Je demande simplement de pouvoir exposer, si vous voulez, comment nous, qui ne l'avons pas connu, ou ceux qui nous écoutent qui ne l'ont pas connu, peuvent aborder cette œuvre, ou sinon l'aborder s'ils la connaissent déjà, la reprendre et la connaître profondément. Parce que dans ses œuvres, et notamment dans ses derniers ouvrages, il y a toute cette correspondance, ces lettres de Rodez, n'est-ce pas, qui sont fascinante et profondément émouvante en même temps, et ça on n'en a peut-être pas assez parlé. Il y a donc là toute une partie de vie quotidienne aussi, en dehors même de l'œuvre proprement dite, qui du reste nous font apparaître aussi dans ces différentes allures d'Artaud à la fois cet amour et cette religion et ce sens du sacré et en même temps ce sens de l'imprécation. Il y a tous ces aspects qui apparaissent. Alors tout de même, peut-être faudrait-il en parler.
Bernard Noël. Oui.
Moi qui n'ai pas connu Artaud, enfin, à travers tout ce que vous dites, ça me donne envie de témoigner finalement. Je me demande si je n'ai pas publié Prével par compensation. Je m'explique. Moi, j'ai débarqué à Paris en 1950, c'est-à-dire tous ces gens finalement étant morts. Et pour moi, mes maîtres, enfin mes intercesseurs, ont été l'heure nouvelle, 84, dont on n'a pas parlé.
Oui, on n'a pas parlé.
Et avec mon premier argent, je me suis acheté le grand jeu. Et si vous voulez, ça situe donc tout un certain paysage. Et en réalité, la lecture de ces gens, je crois, m'a empêché de vivre, au fond, pendant près de 20 ans.
Mais oui, mais
c'est-à-dire
oui,
que ça ne concerne que moi. Et c'est bon,
alors, ah non,
si je n'ai
non,
pas
non,
réussi
non,
à écrire, tout en ne
oui.
pouvant pas faire autre chose qu'écrire.
Ah, oui.
J'ai
ah.
au fond attendu 20 ans pour ça. Et ensuite, si vous voulez, vis-à-vis de Prével, par exemple, à la fois il me fascine, il me repousse. Je dirais même qu'il me dégoûte par certains côtés, ce qui est un peu trop fort. Mais si vous voulez, j'ai vécu avec ces poèmes de Prével que je n'aime pas pendant à peu près 5 ans pour leur trouver un éditeur. C'est-à-dire que je les ai dactylographiés moi-même, etc. Et à la fois, d'une part, je ne les aime pas, mais d'autre part, les lisant, je ne peux que les aimer. Parce que, bon, la forme n'existe pas, mais la poésie est là, si je puis dire. Cette poésie l'emporte, finalement.
Le cas Prével,
Jacques Brel,
car c'est un cas, effectivement, Prével, et ça rejoint ce que disait Marthe Robert sur une société littéraire disparue, et ça répond à la question que Pierre Auster posait tout à l'heure. Voici un garçon qui vit en province, Prével, qui a un petit emploi dans une administration et qui est saisi par le feu poétique. Je dis le feu poétique et pas du tout une vocation littéraire.
Oui,
car Prével, à part son journal, n'a jamais écrit de prose, n'est-ce pas ?
Il avait écrit une pièce à laquelle il tenait beaucoup et qu'il a perdue.
Une pièce.
Mais ce qui est assez fascinant dans le cas de Prével, sur un autre plan, c'est qu'il n'existe pas dans la littérature française de poésie naïve, au fond. Et c'est un poète naïf, je veux dire, c'est un poète absolument autodidacte.
Oui, mais attendez, voir ce que je
veux dire. Et qui rencontre Artaud et qui ne s'en remet pas.
Qu'est-ce que vous vouliez dire, Jacques Bonnet ?
Non, ce que je voulais dire, c'est que voici quelqu'un qui abandonne toute situation, tout parapet, tout garde-fou, qui trouve d'ailleurs moyen d'avoir quand même deux femmes et un enfant, qui est donc dans une situation absolument incroyable, mais qui, croyant à la poésie et pensant que la poésie est l'essentiel et que le reste doit être balayé, voici quelqu'un qui, en effet, est allé, étant de mauvaise santé, est allé tout droit à la mort, effectivement. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il existe encore des jeunes gens qui ne songent absolument pas à la matérielle, comme on dit, et qui, pour la poésie, qui est malgré tout de la littérature, il y a là quelque chose qui, je crois, va disparaître. D'ailleurs, Hubert Join, tout à l'heure, disait « Je ne me rappelle même plus de mais quoi non, nous vivions ».
Personne ne sait comment.
On voit Artaud dans le journal de Prével, arrivé au 84 chez Bizio, et qu'est-ce qu'on y mange ? Des pommes de terre à l'eau. Et Artaud accepte de manger des pommes de terre.
C'était l'époque.
Non, c'était l'époque, mais c'était quand même quelque chose qui n'existe plus, je
oui,
crois, aujourd'hui.
Sans doute, Jacques
si
Brenner,
vous
mais
avez beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qui vivent exactement
qui mangent
en littérature
de pommes de terre.
Et qui mangent des pommes de terre. Comment vit Christian Guèze, par exemple, qui vient de se fiancer à Patmos avec une descendante de Gengis Khan ? Je vous le demande, il vit de rien. Il a communié en novembre dans la cathédrale Ljubljana. Il neigeait et il était pieds nus. Et sa fiancée l'était également. Ils vont se faire prêtres. Ils vivent comme Artaud et comme Crevel.
Ah, mais voilà.
Tout à fait,
non seulement vous avez justement dit le mot, ils vont se faire prêtres. Tandis que là, il n'y avait pas d'autres prêtres pour Prével qu'Antonin Artaud lui-même, pas d'autres religions que la poésie telle qu'il la concevait, pas d'autres rites que d'écrire des poèmes. Vous comprenez, toute la différence est là.
Mais alors, on jette un énorme manteau de Noé sur les périodes d'exaltation religieuse par lesquelles est passé Antonin Artaud. Il avait une doctrine de la chasteté qui seul permettait
il l'a toujours gardé.
Il l'a toujours gardé.
Oui. Oh, ça, c'est une autre affaire, toute autre affaire.
Il y a des rapports, Henri Thomas, extrêmement curieux entre Artaud et la sexualité.
Oui, ils sont curieux et en même temps, ils ne sont pas compliqués, si on veut. C'est un refus total qui apparente Artaud véritablement à des sectes de gnostiques.
Il y a chez lui une détestation de tout ce qui ressemble à un contact charnel qui s'exprime 100 fois,
oui,
plutôt que 10 dans les lettres de Rodez.
Le contact charnel n'est qu'une partie de la sexualité. C'est un refus de l'influence sexuelle. Artaud se sentait menacé par des êtres qui perchaient au Tibet ou au centre de la Terre.
Également dans le 16e arrondissement, près de chez M. Griot de Givry, qui d'ailleurs était mort en 1929.
Par exemple, il prétendait qu'il se passe dans Paris des choses immondes, disons le mot, des partouzes, pour étouffer Antonin Artaud à distance. On m'empêche de travailler.
Et également des repas où les gens se gavaient d'aliments.
Il mettait en garde moi-même, il me disait, « Thomas, prenez garde aux gens qui déversent sur vous leurs tiroirs fluidiques. » Et j'avais grand peur des tiroirs fluidiques, je n'avais pas tort d'ailleurs. C'était un monde d'influence, disons, magique. Martoni n'avait pas beaucoup la magie, naturellement.
Mais en 1945, il abandonne ce qu'il appelait cette doctrine de la chasteté. Tout d'un coup, il y a une lettre à René de Saulier où il dit « J'en ai fini avec Dieu, j'ai enfin trouvé le moyen de m'exprimer autrement. » Mais en fait, dans sa vie, il est resté hostile à ce que vous appelez, vous, l'influence
d'abord,
sexuelle.
D'abord, écoutez, Artaud était un squelette ambulant à la fin. Il se maintenait par une prodigieuse énergie psychique, mais il n'était pas question de vie sexuelle. Mais il avait un sens aigu de la beauté. Il aimait être entouré de belles jeunes filles, de belles jeunes femmes. Arrangez ça comme vous pourrez. Il lui fallait de la beauté. Il n'aurait jamais aimé une vieille sorcière.
Et je crois que tout ça est tout de même très cohérent, finalement, Henri Thomas, parce que l'amour de la beauté est justement en contradiction avec l'existence du mal. J'en reviens toujours à cela. Pour Artaud, il y a un mal. Pour Artaud, mais je veux dire que pour la création, il y a un mal. Il y a un mal dans la création. C'est cela aussi qu'il ressentait profondément. De même qu'il y a cette espèce de vase communicant entre tous les actes des êtres, et que l'on est autant menacé par ce que les autres font que par ce que nous faisons nous-mêmes. Et ça me paraît, non pas du tout un signe de folie, mais un signe d'une espèce de raison supérieure qui est bien plus grande que toutes les folies.
Oui, et à propos justement de la beauté, des êtres beaux, des êtres jeunes, des enfants, Artaud avait un art de parler aux enfants qui était extraordinaire. Eh bien, la beauté, il avait peur pour elle, pour elle. Il voulait qu'elle soit sauvée. Or, elle est massacrée dans la vie sexuelle. La beauté n'a rien à voir avec la sexualité. Et il avait horreur de ce qui supprime l'unique.
Mais dans l'œuvre d'Artaud, tout est ressenti, tout le monde qui l'entoure, lui-même, son corps, tout lui est ressenti comme insupportable. Vous parliez de douleur physique tout à l'heure, mais il y a une douleur complète vis-à-vis de la création et vis-à-vis de lui-même.
Oui, elle avait commencé très tôt. Vous savez, à 17 ans, Artaud a souffert beaucoup de troubles sur lesquels aucun médecin même, je crois, ne peut se prononcer puisqu'on n'a pas les données. Mais il disait, dès l'âge de 17 ans, j'ai perdu de grands pans de l'euphorie primitive, c'est-à-dire de la vie. Et alors il les remplaçait comme il pouvait. Il faut bien dire une chose, Artaud ne faisait aucune propagande pour la drogue. Il mettait en garde les gens. Il disait, moi, j'ai perdu une partie de mon existence. Je suis obligé d'avoir recours à ceci. Il y a peut-être une plante quelque part au monde qui me rendrait la vie. Mais s'il avait gardé cette euphorie primitive, c'était parfait. Il aurait été au 6e siècle grec.
Il a essayé plusieurs fois de se désintoxiquer. Jean Paulhan a payé une cure. Il a essayé de se désintoxiquer pendant le voyage en bateau en direction du Mexique. Et il échouait. Il est mort dans la drogue, si je puis dire, c'est-à-dire dans la douleur.
Le médecin lui-même lui administrait le plus possible. Vous savez, avec un cancer qu'on n'avait pas diagnostiqué à temps, bien sûr, il n'y avait pas d'autres remèdes, il n'y avait pas d'autres palliatifs. Et alors, il avalait de l'opium et se mettait à travailler. J'ai remarqué que chez beaucoup d'intoxiqués, c'est une paralysie de la volonté de créer. C'est Artaud. Il est venu une fois chez moi, il me dit « Avez-vous un compte-gouttes ?» Je cherchais un compte-gouttes. Il avait une petite fiole de laudanum. Je me retourne, il avait avalé toute la fiole. Il me dit, je bois des ombres. Puis il est resté silencieux, et une demi-heure après, il s'est mis à me parler. Une sorte de rêve éveillé qui était extraordinaire, et puis à écrire.
Marthe Robert.
Alors là, nous entrons, si vous voulez, dans le domaine du contenu de son œuvre. Et je trouvais très intéressante votre question tout à l'heure, José Vrigny. Comment peut-on lire aujourd'hui ? C'est la question qu'on aurait dû se poser pour les surréalistes, si justement les surréalistes, eux, n'avaient pas fait une œuvre. Mais pour eux, la question ne se pose pas. Elle se pose en effet pour Antonin Artaud. Et à ce sujet, eh bien, j'ai peut-être un fait à mentionner qui est significatif. Il y a un jeune Américain qui connaissait à peine le français et qui est tombé, il y a déjà quelques années, comme ça, on peut dire qu'il est tombé par hasard sur des livres d'Antonin Artaud. Imaginez. À Philadelphie, un étudiant en psychologie, je crois bien, et qui tombe littéralement sur des poèmes et des livres, le théâtre et son double peut-être, je ne sais pas, il y a sur des poèmes aussi de la fin de sa vie, et qui alors, et c'est ça qui est, si vous voulez, troublant, qui est curieux, il ne sait rien. Encore une fois, il sait à peine le français. Il n'a donc rien lu, il connaît très mal toute cette période, peut-être même pas du tout. Et il est saisi, littéralement. Et il ne peut plus faire autrement que d'apprendre le français, de venir à Paris, où il est maintenant, et d'écrire un livre sur Antonin Artaud. Je dois dire d'ailleurs, tel que je le vois travailler, ce sera justement un livre extrêmement utile, parce que c'est une vraie biographie. Il fait un travail de recherche que personne d'entre nous n'a jamais fait.
Il y a eu une biographie d'Antonin Artaud qui est apparue dans des conditions un peu étranges à la table ronde, si je ne me trompe.
De Louis Brault.
Oui,
travail contestable, paraît-il, mais que l'on peut citer à l'occasion.
C'est un travail contestable simplement parce qu'il n'est pas du tout fondé sur des documents irrécusables, n'est-ce pas ? Il y a des périodes entières de la vie d'Antonin Artaud qui sont absolument dans le noir pour nous, n'est-ce pas ? Nous ne savons rien là-dessus que ce qu'il a dit. Par exemple, son voyage en Irlande. Nous n'avons absolument aucun témoignage, aucun document. Nous ne savons pas ce qui s'est passé.
L'épisode de Marseille, par exemple.
L'épisode de Marseille. Il est allé en Irlande, il a été dans la prison où Antonin Artaud a été enfermé. Il a été retrouvé l'ambassadeur de France à Dublin qui était en poste à ce moment-là pour lui poser des questions, n'est-ce pas, pour lui dire « Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avez-vous mis cet homme en prison ?» C'est d'ailleurs très intéressant. Les Irlandais sont extrêmement ennuyés. Ils n'aiment pas du tout.
Poursuivre longtemps.
Mais oui, n'est-ce pas, parce qu'ils ne savaient pas du tout qui était cet homme. C'était un vagabond. Il n'était précédé de rien dans ce pays. Il n'avait rien pour lui, il n'avait pas de moyens d'existence. En plus de ça, il marchait dans les rues en tenant des propos bizarres et apparemment très menaçants. Donc, on l'a arrêté, puis on l'a fait tout simplement rapatrier. C'est très simple et c'est horrible parce que tout est parti de
tout
là.
Tout est parti de là.
Pour ma part, j'ai toujours pensé que si Antonin Artaud n'avait jamais quitté Montparnasse, il n'y serait rien arrivé. À Dublin, c'était autre chose. Enfin, donc, cet ouvrage dont je vous parle va être très utile. Il avait vraiment un travail de recherche que, justement, personne d'entre nous n'a fait, ne pouvait et ne voulait probablement faire à cause, justement, de la fascination qu'Antonin Artaud a exercée sur nous et qui a empêché, au fond, jusqu'à présent, tout travail littéraire sérieux.
Vous ne pouviez
sur
pas le mettre dans
son
l'histoire.
Œuvre.
Mais oui, c'est vrai. Et il en existe une sorte de reflet, si vous voulez. C'est que ceux qui ont vraiment vu vivre Artaud ne peuvent plus réellement avoir envers la littérature une confiance, disons, totale. Enfin, il a bouleversé des gens, il a bouleversé ses amis. Et je sais s'il les martelait, enfin, quelle épreuve c'était. Mais il avait raison, car il en reste un ébranlement qui n'est pas proprement littéraire, qui est moral.
Marthe Robert.
Pour ma part, je me refuse absolument à faire entrer les thèmes et les schémas affectifs, poétiques d'Antonin Artaud dans une quelconque forme d'idéologie. Parce que ça, je sais qu'il ne le voulait pas. À la fin de sa vie, au moment où il a atteint un degré de lucidité absolument extraordinaire, au moment où il était usé complètement, très malade, nous le savions, nous le voyions. C'est à ce moment-là qu'il a atteint le plus haut degré, si je puis dire, d'intelligence. Il était positivement rayonnant d'intelligence. Et quand je dis intelligence...
Et de voyance.
Je dis intelligence, justement, parce que la voyance, on la lui accorde. Oui. Mais là, je dis intelligence. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Jacques Brenner, des derniers poèmes qu'il nous lisait, et qui était justement une espèce de précaution qu'il prenait, précaution poétique, mais précaution intellectuelle aussi, contre toutes les interprétations qu'on pourrait donner de sa pensée. C'est justement une espèce de critique de tous les concepts dans lesquels on serait tenté peut-être de les définir, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de vouloir définir quelque chose. Les rapports d'Antonin Artaud avec le corps, avec la chasteté, eh bien justement, ils sont uniques en leur genre. Vous leur trouverez partout des précédents. Pourquoi ? Parce que l'âme humaine est faite partout de la même manière, parce que la psyché humaine n'a pas 36 façons de s'exprimer et de se défendre surtout. Car Antonin Artaud s'est défendu, il a dû se défendre terriblement, il le disait lui-même, c'était une lutte au couteau qu'il devait mener à chaque instant pour vivre et pour survivre. Alors, par un certain côté, si vous voulez, les idées d'Antonin Artaud sont les plus banales qui soient. Il n'est pas le seul à avoir cru que la sexualité, la dépense d'énergie que représente la sexualité, prive un homme de ses forces spirituelles. Il n'est vraiment pas le seul, on a toute une civilisation qui a été fondée sur ce préjugé. Il n'est pas le seul non plus à s'être senti possédé par des forces qui le dépassaient et par des puissances qui étaient pour lui forcément des puissances du mal parce qu'elles le faisaient souffrir. Tout ça se rapporte à la souffrance réelle qu'il avait. Il n'est vraiment pas le seul. C'est la partie la moins originale de son œuvre, si vous voulez, celle qui, au fond, peut être laissée de côté. C'est mon avis. Évidemment, je conçois qu'on puisse avoir une toute autre façon de voir. Mais à condition de relire, en effet, les derniers poèmes d'Antonin Artaud. Malheureusement, ils ne sont pas encore publiés. Ils sont encore à l'état de manuscrit, et je le déplore beaucoup, parce que c'est là, vraiment, je crois, qu'on pourrait voir, disons, son testament intellectuel, véritablement. Parce que là, Antonin Artaud nous donne vraiment toutes les indications de ce qu'il ne faut pas faire pour le comprendre. Et précisément, le ramener à quelques dénominateurs communs que ce soit, d'une forme de culture, d'une forme de religion, d'une philosophie de la vie. Ça, vraiment, je crois que là, on lui fait le plus grand tort en le comparant à quoi que ce soit. Je m'explique. La personne d'Antonin Artaud nous renvoie incontestablement au très grave problème du narcissisme du créateur. Antonin Artaud était un très grand narcissiste, cela va de soi. Et cela, bien qu'il ait été en même temps un homme extrêmement modeste, très bon, doué d'une bonté de cœur vraiment extraordinaire et discret, qui aimait la discrétion. Et malgré cela, il a écrit pour n'être comparé à rien, je ne crois pas me tromper, en disant que c'était au fond la seule pièce de croyance qu'on pouvait trouver. Il avait quand même foi en lui et foi en son génie, bien sûr, de même qu'il ne supportait pas le tutoiement. Comme il a écrit, vous avez quelque part, pas de copinage avec moi, pas de tutoiement. Il ne supportait pas non plus la comparaison.
Cette main qui faisait signe contre la vitre va la chercher dans le cimetière d'Ivry. Et la voix et la gesticulation du pitre, on l'avait entendu chanter durant la nuit. Une dernière fois, envoyé d'un bras gourd, la hache a rebondi sur le bloc d'acajou d'où ne surgira pas le totem vrai, le clou qui reste inarraché dans l'être pour toujours. Artaud s'assied, visage en cendre dans le vent. C'est l'aube où fume encore un dernier campement, l'âtre noir où se perd la piste du voyage du cavalier qui monte en chantant vers l'orage. Artaud meurt essayant d'enfiler sa chaussette, mais le Tibet retient la main qui se dessèche. Artaud, plein de pavots étouffés dans sa tête, Artaud dit non dans son cercueil au coup de bêche. We'll be right back.
C'était, en compagnie d'Antonin Artaud, un samedi de France Culture proposé par Roger Vrigny, diffusé la première fois le 10 mai 1975 sur France Culture.